France Inter, le 7-9.
Il est 7h47, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est ministre de l'Action et des Comptes Publics.
Bonjour à vous Gérald Darmanin.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin. Selon l'Élysée, cité par l'AFP cette nuit, il y a un risque de mouvement d'une rare violence samedi prochain à Paris. Je cite, plusieurs milliers de personnes viendraient à la capitale pour casser et pour tuer. Les mots sont forts. Avez-vous plus d'informations ce matin?
Il y a déjà eu des violences extrêmement graves samedi dernier. Je rappelle que depuis le début de ce mouvement, il y a eu plusieurs morts, des centaines de blessés. Et voilà, quelque temps, quelqu'un disait que sa personne était sacrée. Moi, je pense que les personnes qui sont sacrées dans ces moments précis, d'abord, c'est bien sûr les vies humaines, et c'est particulièrement nos policiers et nos gendarmes qui ont été...
Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon.
Je considère aujourd'hui que ceux qui sont sacrés, qui gardent la République, ce sont les policiers, les gendarmes, qui tous les jours, et particulièrement lors de ces week-ends d'émeutes, ont été en responsabilité et avec un grand sang-froid, ont fait leur métier de protéger la République.
Mais pardon, le ton a changé. Il y avait les appels à la responsabilité il y a encore quelques heures. Là, les mots sont graves, inquiétants. Des milliers de gens qui viennent à Paris pour tuer. L'image est sidérante. Est-ce qu'il y a une dramatisation qui est nécessaire?
Mais Madame Salamé, le moment est dramatique. Il y a eu des centaines de blessés. Il y a eu, je crois, 4 morts. Il y a eu des personnes en urgence absolue. Hier encore, le Conseil des ministres a été interrompu rapidement parce qu'il y avait eu 2 lycéens qui étaient en urgence absolue. Si vous ne considérez pas que tout ceci est dramatique pour notre pays, pour la concorde nationale, alors je pense que nous ne saisissons pas la gravité de la situation. Et donc samedi prochain, nous avons raison, me semble-t-il, parce que nous sommes le gouvernement de la République et le ministre de l'Intérieur y travaille et y travaille bien, de prévenir les Français que samedi prochain, il faut être raisonnable. Il faut en appeler à la responsabilité et qu'il peut y avoir effectivement des événements dramatiques.
Si vous devez qualifier la crise actuelle, vous diriez quoi, Gérald Darmanin? On est dans une crise politique, une crise sociale, une crise de régime?
On n'est pas dans une crise de régime. Elle peut le devenir si les responsables politiques font n'importe quoi. Et ça me permet de dire ici que le bien le plus important pour la France et les Français, ce sont nos institutions. Nous sommes manifestement dans une crise sociale qui a des conséquences politiques. Elle a plusieurs raisons, cette crise sociale, elle vient de loin, les gouvernements d'aujourd'hui sont obligés, et quelque part c'est notre responsabilité de la résoudre, mais je crois que ce qui est le plus important aujourd'hui c'est de poser les éléments du débat et essayer de comprendre ce que souhaite une partie des Français. Moi j'ai mon analyse, c'est la crise des 30, à 30 km des métropoles, à 30 km de Paris, depuis 30 années, on se sent aujourd'hui délaissé. C'est une question de pouvoir d'achat, mais ce n'est pas qu'une question de pouvoir d'achat, c'est aussi profondément une question d'identité, de territoire, de c'est quoi être français aujourd'hui, c'est quoi la nation, c'est quoi le partage entre ces impôts, est-ce qu'on comprend pourquoi on paye des impôts et à qui ça profite?
Alors justement, Édouard Philippe annonçait hier un moratoire de 6 mois sur la hausse des taxes du carburant. Finalement, hier soir, Emmanuel Macron, dans un communiqué à 20h30, est allé plus loin en annonçant la suppression de la hausse des taxes pour l'année 2019. Pour être très clair ce matin, les taxes augmenteront-elles en 2020 et en 2021 comme c'est prévu?
Le Premier ministre a annoncé hier l'annulation de la taxe carbone dans le projet de loi de finances. Alors c'est un peu technique, mais dans la semaine prochaine, nous allons définitivement le voter avec les parlementaires. Il n'y aura pas l'augmentation de la fiscalité carbone dans le projet de loi de finances, dans le budget que les Français vont connaître en 2019. Et le Premier ministre a annoncé par ailleurs qu'il y aurait du 15 décembre jusqu'au mois de mars un grand débat français où normalement les choses, j'ai écouté Monsieur Legrand, c'est dans le débat démocratique que l'on n'échange pas dans la contrainte violente. Et nous verrons si au mois de mars, au mois d'avril, la conclusion de ces débats, c'est effectivement les impôts qui équivaut effectivement, il faut bien le voir, avec des dépenses, correspondent à ce que souhaitent les Français au mois d'avril prochain.
Donc vous n'excluez pas une hausse des taxes en 2020, 2021?
Non, mais
sur le carburant.
Moi je suis le ministre des Comptes Publics et ça fait 17 mois que je dis qu'il faut baisser les impôts en France, des entreprises comme des ménages. Et que par ailleurs, c'est aussi la responsabilité des hommes politiques que de le dire. Il faut baisser, si on le souhaite, les dépenses en même temps. Tous ceux qui vous racontent qu'on peut à la fois augmenter les dépenses et baisser les recettes sont des bonimenteurs. Et c'est ça qui nourrit le poujadisme et le populisme. Ce qu'a annoncé le Premier ministre, c'est l'annulation de la taxe carbone pour l'année 2019 dans le projet de loi de finances, mais ne préemptons pas un débat démocratique que chacun appelle de ses voeux avant qu'il n'arrive.
Le manque à gagner pour l'État sera d'au moins 2 milliards d'euros. Quel impact cela aura pour le déficit de l'État, qui s'est encore creusé, je le précise, en octobre dernier? Est-ce que vous maintenez ce matin la prévision de déficit à 2,8% du PIB l'an prochain?
Alors si je puis me permettre, le manque à gagner, si le taxe carbone n'est pas dans le projet de loi de finances, c'est 4 milliards. À peu près 3 milliards pour l'augmentation diesel-essence qui avait été prévue et à peu près 1 milliard pour les entreprises qu'on appelle le GNR, bref, à peu près 4 milliards. Nous tiendrons nos comptes publics. Le président de la République a été élu pour ça.
Et donc 2,8, vous le maintenez parce que c'est important.
Nous tiendrons nos comptes publics. Il y a un débat parlementaire, je ne vais pas le préempter à la place des parlementaires. Nous tiendrons les comptes publics. Ce n'est pas la politique aujourd'hui, on ouvre les vannes. Nous tiendrons nos comptes publics.
Donc ce n'est pas le moment de dépasser les 3%.
Nous continuerons à baisser nos impôts, mais c'est le moment. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? Si on augmente, parce que moi je ne suis pas fétichiste des chiffres, 2,9, 3,1, l'enfer n'est pas d'un côté, le paradis de l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe si nous montrons que nous ne tenons pas les comptes publics? Eh bien nous payons beaucoup d'intérêts. Nous payons beaucoup, beaucoup d'intérêts. Et nous payons des intérêts à des banques, et souvent à des banques étrangères. Est-ce que les Français veulent payer des impôts, non pas pour des services publics, non pas pour des retraites, mais pour des banques étrangères? La réponse est non. Donc mon devoir, c'est de ne pas détériorer les comptes publics, parce que détériorer les comptes publics, c'est augmenter les impôts des Français demain.
Une prime exceptionnelle de fin d'année, versée aux salariés par leur entreprise, qui serait défiscalisée, sans impôts à payer et sans charge pour le patron, est-ce que c'est une piste sérieuse qui est sur la table aujourd'hui pour répondre à la colère sociale?
Tout à fait, ça fait partie des choses. Moi j'en appelle aussi au patronat, aux entreprises, effectivement, de pouvoir prendre part à la question qui a été posée par les Français du pouvoir d'achat. Et si les entreprises, et nous les encourageons à le faire, puissent en effet mieux redistribuer la différence entre le capital et le travail, plus d'argent pour les travailleurs, j'y suis personnellement favorable. Et nous aurons l'occasion, j'imagine, sous l'autorité du Premier ministre, de voir dans les prochains jours comment nous pouvons, dès l'année prochaine, effectivement, défiscaliser ces primes.
Emmanuel Macron a-t-il clairement recadré hier, lors du Conseil des ministres, certains des ministres qui ont ouvert la porte ces derniers jours à un possible rétablissement de l'ISF?
Bon, d'abord, il ne m'appartient pas au Conseil des ministres de vous dire ce que dit le président de la République. Mais ce qui est certain, c'est que le président de la République a bien montré la cohérence de son programme économique. Et que nous ne reviendrons pas, effectivement, cette année, dans quelques jours, sur la suppression de l'impôt sur la fortune. Sur ce point, les choses sont assez claires. L'impôt sur la fortune, il aurait dû être payé par quelques centaines, quelques milliers de contribuables au mois de juin dernier. C'était il y a quelques semaines. On ne va pas changer la politique économique de notre pays, changer sa politique fiscale toutes les semaines. Qu'il y ait dans un an, dans deux ans, que le Parlement fasse une évaluation, qu'on modifie des choses lorsqu'on aura constaté que les choses fonctionnent ou fonctionnent mal. C'est normal, c'est le but de la démocratie. Mais il n'y aura pas de retour de l'ISF dans notre pays. Parce que
ni dans six mois, ni dans un an, ni dans trois ans, sous ce quinquennat, il n'y aura pas de retour de l'ISF. Vous le dites ce matin, clairement.
On verra l'évaluation avant, à la fin, sans doute, de l'année prochaine. Mais encore une fois, c'est un impôt qui a été supprimé il y a quelques semaines. Vous savez, moi, j'ai été élu, comme vous le savez, dans une ville populaire à côté de la Belgique. Et il y a beaucoup de chômage et de désespérance sociale là où je suis élu. La suppression de l'ISF, elle va permettre à des entreprises, à des investisseurs de revenir dans notre pays et pas rester du côté de la Belgique, de venir en France, dans les Hauts-de-France, de créer des entreprises. Est-ce que ça marche?
Mais Gérald Darmanin, vous avez des chiffres que ça marche? Vous le posez la
Madame
question.
Madame Salamé.
Est-ce que vous avez des chiffres qui prouvent que les riches reviennent ou que les riches ne partent pas ou que les riches investissent suffisamment? Est-ce que vous avez déjà des preuves ce matin à nous donner pour dire oui, ça marche, la suppression partielle de l'ISF?
Madame Salamé, qu'est-ce qui se passe? Voici un impôt qui a été supprimé il y a quelques semaines. Vous êtes en train de me demander, après 30 ans d'idéologie fiscale française, en quelques semaines, est-ce que ça marche?
Il y a une annonce symbolique qui date d'il y a un an et demi. Est-ce que cette annonce symbolique a déjà provoqué quelque chose?
Vous aurez constaté que les Français, qu'ils soient riches ou pauvres, en général, les annonces symboliques, ils s'en fichent un peu. Ce qu'ils veulent voir, c'est est-ce que les impôts, ça augmente ou ça baisse. En l'occurrence, c'est un gouvernement qui baisse ses impôts de tout le monde, des ménages comme des entreprises depuis 17 mois. Est-ce que, en revanche, la politique que nous mettons depuis 17 mois en place fonctionne? Ben oui, il y a des créations d'entreprises, il y a des gens qui reviennent sur le territoire national, il y a des investisseurs qui reviennent, il y a des créations d'emplois, le chômage baisse, alors peut-être pas assez, peut-être pas...
Le chômage ne baisse plus, là, depuis quelques mois.
Mais ce n'est pas, c'est pas vrai.
Vous avez entendu Dominique Seux, la croissance est molle, le chômage ne baisse pas.
Vous savez, ce que j'aime dans ce pays, c'est à la fois sa vitalité démocratique, sa volonté sans doute de se faire entendre, mais aussi de ne pas voir ce qui fonctionne. Ce n'est pas vrai, vous avez tort. Pardon de le dire, il y a aujourd'hui plus de création d'emplois qu'avant.
Il y a plus de création d'emplois, mais pas baisse de chômage.
Il y a plus, c'est faux, il y a moins de chômeurs aujourd'hui qu'il y en a eu il y a 17 mois. Peut-être que les choses ne vont pas assez vite, Madame Salamé. Peut-être qu'on ne baisse pas assez vite les impôts. Peut-être qu'on ne fait pas assez de choses. Peut-être, c'est vrai, nous l'avons entendu 5 sur 5. Mais la politique économique courageuse du président de la République, elle fonctionne. Et on juge pas le 100 mètres haies au bout de 12 mètres haies. Vous voyez, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Avec cette défiance généralisée aujourd'hui, cette crise dans le pays, est-ce que vous allez pouvoir continuer à réformer, à garder le cap, comme vous dites? Ou est-ce que forcément, inévitablement, le cap va devoir changer ces 3 prochaines années?
Moi, ce que je comprends, à la fois du courage et de l'ambition du président de la République, c'est qu'il a pas oublié le jour de son élection présidentielle. À la fois les 11 millions de voix pour Marine Le Pen, à la fois une abstention forte, et à la fois des Français qui ont tourné la page d'une certaine politique, une politique à la papa, on va dire, pour réformer le pays. Le président de la République, il a beaucoup réformé depuis 17 mois. Il a réformé notre fiscalité, il a réformé le statut de la SNCF, il a réformé le code du travail. Il va demain réformer la fonction publique, la fiscalité locale, il a supprimé un impôt. C'est le premier président de la République, les retraites bien sûr, dans quelques mois. Il est le premier président de la République qui supprime un impôt, la taxe d'habitation. Une baisse d'impôt, c'est la première fois que ça se constate pour les Français. Mais oui, parce que si nous ne réformons pas, le pays est foutu. Si nous ne réformons pas le président de la République, il trahit la promesse que les Français ont faite en votant pour lui. Et vous savez quoi ? Aujourd'hui, moi je suis très fier d'être dans un moment sans doute difficile pour la France avec le président de la République, mais très heureux que ce courage soit encore à la tête du pouvoir.
Gérald Darmanin était notre invité, merci à vous et belle journée.